Hey, bonnes vacances.
On se retrouve à une prochaine.
Je me tiens au lover, je poigne avec les cougars, je me prends pour un bum, mais je suis juste un douchebag. Je suis juste un douchebag, puis j'ai des grosses bagues, puis j'ai des grosses bagues, puis j'ai des grosses.
C'est quelque chose que je garde en dedans depuis trop longtemps, et je pense qu'il est temps d'en parler maintenant. J'ai un questionnement par rapport à un phénomène de société. Ça nuit beaucoup à mes activités quotidiennes, ça nuit à mes relations, autant mes relations amicales que mes relations amoureuses. Je comprends pas pourquoi les hommes se mettent du gel dans les cheveux. Encore aujourd'hui, en 2020, avec tous les produits qui sont sur le marché, pour éviter de se mettre du gel dans les cheveux, pour éviter d'avoir cette texture-là dure et grasse, et pour éviter de se lécher les cheveux par en arrière en pensant qu'on est donc beau. Avec tous les produits que vous avez à votre disposition pour faire tenir vos cheveux sans qu'ils aient l'air mouillés, sans qu'ils aient l'air gras, pourquoi vous utilisez encore du gel? Pourquoi les hommes se mettent du gel dans les cheveux? Il n'y a rien de beau là-dedans. Ce n'est pas un bon produit. Ce n'est plus ça qu'il faut utiliser. Ça a peut-être été bon à une certaine époque, mais plus maintenant. Pourquoi les hommes se mettent du gel dans les cheveux?
93.
Dès le 10 août, au 93.
Une émission qui va droit au but. Une nouvelle approche. Un angle nouveau.
Dès le 10 août, 10 heures.
Un show flambant neuf au 93. Mais je vous dis pas avec qui. Faites vos recherches.
Le 10 août au 93.
Indice, ils ont des noms de famille de premier ministre.
C'est pas clair. Excusez-moi, pour aller au lac Épinette, je passe par où?
Pas compliqué. Tu prends le chemin de la prudence.
Pour les chutes à l'ours?
Le chemin de la prudence.
Le chalet à Rémy?
Chemin de la prudence.
Le Belvédère?
Chemin de la prudence. Chemin de la prudence.
Coudonc, connaissez-vous un autre chemin?
Oui, mais l'autre, te le conseille pas.
En VTT, peu importe votre destination, portez votre casque, ajustez votre vitesse et ne conduisez pas avec les facultés affaiblies. Un message du gouvernement du Québec.
Voici une bonne nouvelle. La plupart des salles à manger de nos restos préférés sont ouvertes. Et une autre bonne nouvelle. Beaucoup d'entre eux continuent à offrir le prêt-à-emporter et la livraison.
Voici votre commande.
Merci.
Pour des restos qui offrent le prêt-à-emporter et la livraison, textez RESTO au 25226. Encouragez nos commerçants locaux, comme...
Le Shaker, restaurant La Girolle et grossiste Le Frigo.
Un congé de repas au bout des doigts. Textez RESTO au 25226.
Bon appétit.
Et comment?
La marque Griffe Cuisine. Gage d'une équipe gagnante, Griffe est finaliste au prix Nobilis dans la catégorie cuisine de plus de 40 000 $
ainsi qu'au FIDE 2020 dans la catégorie manufacturier innovant.
Chez Griffe, la pensée verte fait partie des valeurs de l'entreprise.
Entre autres, ils valorisent les produits québécois et ils ont remplacé les produits à base de solvants par des produits à base d'eau.
Prenez rendez-vous pour discuter avec un designer.
Et préparez-vous pour le projet de vos rêves.
Faites votre marque avec Griffe Cuisine.
Salut, c'est Claudia Marquez. On me connaît pour être débordante d'énergie, particulièrement après une bonne nuit de sommeil. Mais pendant des années, j'ai souffert d'insomnie. Je me retournais tellement que je me retrouvais souvent sur le divan. Eh bien, mon lit réglable style de vie Dormez-vous a changé tout ça. En appuyant sur un bouton, je peux ajuster le lit à ma position de sommeil idéale, indépendamment de celle de mon amoureux, et on dort mieux tous les deux. Dès maintenant, achetez n'importe quel lit réglable et obtenez un remboursement de 15% sur une carte cadeau Dormez-vous. Des restrictions s'appliquent, voir les détails en magasin.
Au Salon de jeux de Québec, notre priorité, c'est de vous divertir dans un environnement sécuritaire. C'est pourquoi nous avons mis en place des mesures sanitaires et un nouvel outil de réservation en ligne. Pour réserver votre place, rendez-vous au salondejeux.com. 18 ans et plus.
Tous les jeudis de l'été, vers 15h30, dans Bouchard en parle, tout le monde dehors pour la chronique plein air en compagnie de l'aventurier Alexis Nantel. Présenté par Sport Expert et Atmosphère. Il vient nous donner plein d'idées d'escapades en plein air des plus accessibles aux plus audacieuses. Et je suis sûre qu'on aura droit à quelques récits de ses aventures. À tous les jeudis de l'été, à 15h30, dans Bouchard en parle, on met le nez dehors. La chronique plein air, présentée par Sport Expert et Atmosphère, au FM 93.
Aujourd'hui, tu vas à plusieurs endroits, mais tu ne sais pas encore comment t'y rendre. Le Lyft est la solution. Tu peux voir les taxis agréés dans les environs et tes autres options de transport. Toutes les compagnies de taxis, l'autobus et le métro. Vérifie les horaires et les prix et choisis ton transport. Il reste en contact avec le chauffeur. C'est l'art de se déplacer. Grâce au pouvoir du choix, le tout en une appli. Le Lyft est ici, l'appli pour les déplacements au Canada en association avec Éducalcool.
Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion? C'est le moment de passer faire un tour dans la belle région de Saint-Raymond. Saint-Raymond, la ville de l'automobile. C'est quatre concessions de véhicules neufs.
Hyundai Saint-Raymond, Germain Chevrolet, Dalton Ford, Saint-Raymond Toyota. Et toujours plus de 150 véhicules d'occasion en inventaire. Votre destination d'achat, Saint-Raymond, la ville de l'automobile. Côte-Joyeuse, Saint-Raymond.
C'est la grande liquidation de hockey chez EcoSport. Des rabais de 30 à 70% vous attendent sur tout. CCM, Power, Sherwood, True. Oui, oui, tout est en liquidation de 30 à 70%. Du jamais vu en début de saison. Premier arrivé, premier servi. EcoSport, Québec et Lévis.
FM 93. Au cœur de Québec. FM 93 fait bouger les choses. Fait parler Québec. Depuis 40 ans. FM 93. Québec.
Jusqu'à 18h, vous écoutez Bouchard en parle.
C'est Bouchard en parle.
Voici Élisabeth Crête.
Au FM 93.
Plusieurs endroits où c'est compliqué à cette heure-ci. D'abord sur Henri IV en direction nord, c'est à partir du chemin Sainte-Foy et ça se poursuit là sur une bonne longueur dans les travaux sur Henri IV en direction nord, direction sud. Là où c'est le plus compliqué, c'est dans le secteur là de l'échangeur avec Capital, donc dans la grande courbe là et après là à l'approche des travaux, ce sera également lourd. Sur Charest, eh bien pour les gens qui circulent en direction est, ça refoule là à partir de la hauteur de la base de plein air et ça se continue jusque du côté de Robert Bourassa. Donc, prenez votre mal en patience si vous êtes dans le secteur. Sinon, autre ralentissement à signaler à cette heure-ci. C'est pour les gens qui arrivent de Laurentienne en direction sud et qui veulent emprunter Capital en direction ouest. Là, vous devrez ralentir à l'approche de la bretelle. Si jamais vous êtes témoin d'incidents, d'accidents ou de ralentissements, composez l'étoile 80.
À la météo, c'est une alternance de soleil et nuages. 60 % de probabilité d'averse et risque d'un orage cet après-midi. Ça se dégage ce soir et cette nuit. Et demain, c'est une belle journée. Ensoleillé le matin et tôt l'après-midi. Il va y avoir davantage de nuages au cours de la fin de l'après-midi et des probabilités d'averse aussi à ce moment-là. Mais c'est faible, c'est 30 %. Alors demain, là, on devrait avoir une très, très belle journée. Le maximum prévu, c'est 27. Et pour dimanche, pour le moment, c'est ordinaire. Des averses avec, là aussi, un maximum de 27. Présentement, à Québec, on a 23.
15h08. J'ai l'impression que de plus en plus, on parle dans la société de relations toxiques, le phénomène des relations toxiques. Et c'est revenu, en fait, cette semaine dans l'actualité parce que, bon, vous savez, tout ce qui est arrivé avec Julien Lacroix, l'humoriste Julien Lacroix, il a fait l'objet d'un reportage dans le quotidien Le Devoir en début de semaine et il a été dénoncé par une dizaine de femmes, dont quatre à visage découvert et dont son ex-conjointe avec qui il a été pendant 6 ans. On a parlé d'agression sexuelle, d'harcèlement sexuel, d'inconduite sexuelle, bon, c'était pas mal, je vous dirais qu'il y avait des accusations ou des allégations plutôt sur pas mal tous les thèmes. Et il a évidemment perdu, il a en fait arrêté tous ses contrats, il a perdu beaucoup d'amis, il a perdu beaucoup de contacts et il a dit qu'il allait aller chercher de l'aide. C'est resté comme ça jusqu'à 2 jours après environ, lorsque son ex-conjointe, avec qui il a été pendant 6 ans, qu'il l'a dénoncé dans le reportage du Devoir, elle s'appelle Geneviève Morin, elle a écrit un très très long texte pour le site urbania.ca que j'ai lu au complet, un texte magnifiquement bien écrit qui détaille en fait la relation qu'elle a eue avec Julien Lacroix. Puis vous savez que Geneviève Morin, elle s'est fait beaucoup reprocher d'avoir témoigné dans le reportage du Devoir parce qu'elle est sortie avec pendant 6 ans. Comme si sortir avec quelqu'un, ça voulait dire que ça n'existe pas, des agressions sexuelles à l'intérieur d'une relation, ça n'existe pas. Le fait de dire non, puis tu ne peux pas dénoncer un ex-chum parce que tu es sortie avec lui pendant aussi longtemps. Si c'était si pire que ça, tu avais juste à t'en aller.
C'est ça, c'est comme si ça voulait dire... Parce que tu es resté longtemps avec, tu consentais à tout ça.
Voilà. Puis dans le... Oui, c'est exactement ça, alors que c'est totalement faux. Et quand tu lis le texte au complet, bien, elle aborde le sujet de la relation toxique. Elle dit que ce qu'elle avait avec Julien, c'était ça. C'était une relation toxique. Puis je vais vous avouer que j'entends parler de ça depuis plusieurs années, des relations toxiques, mais peut-être parce que j'ai eu la chance de jamais en vivre une moi-même, j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Ça commence où, une relation toxique? Ça s'en va jusque où? Qu'est-ce qu'on considère comme un élément toxique? C'est un petit peu le néant pour moi. Puis j'imagine que c'est peut-être flou pour plusieurs plusieurs auditeurs parce qu'on n'en parle pas depuis 30 ans du phénomène des relations toxiques. On va essayer d'aller faire le point avec ma prochaine invitée. Elle s'appelle le Dr. Christine Groulx. Elle est psychologue et aussi présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Madame Groulx, bonjour.
Bonjour.
Madame Groulx, tout d'abord, j'ai l'impression que le thème des relations toxiques, on en parle pas mal plus depuis plusieurs années, mais pourtant, c'est pas un phénomène qui date d'hier, là.
Oh, pas du tout. C'est un phénomène aussi vieux que les relations existent. Je pense que c'est un phénomène qu'on comprend mieux, qu'on décrit mieux, qu'on connaît mieux. Quand on parle de toxicité, hein, on parle de quelque chose qui détruit à petit feu. C'est-à-dire la toxicité, c'est quelque chose qui empoisonne. Alors, donc une relation toxique, c'est quelque chose qui démolit ou qui cause un tort. C'est ça la toxicité au psychisme ou à la santé psychologique de quelqu'un.
Est-ce qu'on peut considérer qu'une relation dans laquelle il y a de la violence conjugale, par contre, c'est une relation toxique au même titre qu'une relation où il n'y a pas de violence conjugale, ce n'est une aussi?
La violence conjugale, c'est un des indices de toxicité. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir plusieurs, mais c'est sûr que la violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, parce que souvent, la violence physique, on la voit, puis il n'y a pas beaucoup d'équivoques sur ce que c'est. La violence psychologique, c'est infiniment plus insidieux. C'est long avant que les gens s'en rendent compte. Ça paraît pas. C'est souvent camouflé. Puis d'autant que souvent, quelqu'un qui va commettre des violences psychologiques, il le fera pas tout le temps.
Okay.
Donc souvent, il le fera pas en public. Puis souvent, il va faire des gestes de réparation pour reséduire ou pour reconquérir, je vous dirais, sa victime. Mais ce qui est certain, c'est que quand on parle de toxicité psychologique, souvent on va parler d'éléments comme la critique constante, par exemple. Donc la personne a un sentiment de jamais en faire assez pour satisfaire l'autre. Puis on cherche les torts de l'autre plutôt que des solutions. On isole la personne tranquillement, on discrédite les amis, on discrédite la famille, de sorte que il n'y a plus personne qui a un œil extérieur pour faire la contrepartie. Ça fait que ça donne de plus en plus de pouvoir. Je vous dirais à l'agresseur ou à la personne qui est toxique. Souvent, ça va créer de l'incertitude dans la relation aussi. La personne va en venir à douter d'elle. Le but, évidemment, c'est d'être capable d'exercer un certain contrôle sur l'autre. Hein? Et c'est souvent des relations où il n'y a pas de réciprocité. C'est-à-dire que la personne va être un petit peu utilisée aux fins de l'autre. Alors donc, il y a toujours une forme de manipulation. Mais vous savez, les relations toxiques, on les trouve pas juste dans le couple, on peut les trouver en amitié, on peut les trouver dans les relations de travail également.
Et comment on peut expliquer que quelqu'un va rester très longtemps dans une relation toxique? Parce que là, j'entends des commentaires là, à gauche et à droite. Il y en a qui vont dire, ben, à partir du moment où tu te fais critiquer une fois, deux fois, trois fois, ben, va-t'en de la relation. C'est clair que la personne t'apprécie pas ta juste valeur. Comment on explique que certaines personnes vont poursuivre la relation puis avoir espoir que ça change?
Ben justement, c'est-à-dire que d'abord ils ont l'espoir que ça change, elle ou il, ces personnes-là. Mais il y a beaucoup de questions de perception, c'est parce qu'à partir du moment où la personne est isolée puis commence à douter d'elle-même puis commence à penser qu'elle est responsable des comportements de l'autre, c'est ça qui est pernicieux, c'est ça qui est insidieux. Et là, la personne a l'impression que c'est elle qui finit par causer ça.
Okay.
Et donc, souvent la personne va se demander, parce que souvent dans une relation toxique, il y a quelque chose d'inéquitable. Donc souvent la personne va avoir tendance à se demander, ben si je faisais autrement, ce serait différent. Et souvent la personne va se remettre en question longtemps avant de remettre en question la relation. Donc c'est pas simple à identifier ces éléments de toxicité là parce que ils sont pas toujours évidents et ça prend du temps avant d'avoir une perception juste de la situation. Je dois vous avouer qu'il y a des gens qui sont certainement plus vulnérables ou plus à risque de rester dans des relations toxiques. Et ce sont des gens qui ont déjà une faible estime de soi.
Parce que là, c'est plus facile. C'était là où je m'en allais, puis c'est totalement sans jugement, mais j'allais vous demander justement, est-ce qu'il y a des gens qui, de par leur nature, sont peut-être plus portés à se retrouver dans ce type de relation-là? Puis j'imagine que l'estime de soi joue un rôle là-dedans. Là.
Mais tout à fait, et souvent ce qu'on va retrouver, puis encore là, je veux pas faire une généralité, mais vous savez, quelqu'un qui a évolué dans un monde où il était très critiqué, dans un monde où, comme enfant, comme adolescent, il a eu le sentiment de pas être à la hauteur des attentes qu'on avait pour lui, quelqu'un qui s'est pas senti, par exemple, aimé comme il était, donc quelqu'un qui a pas eu un modèle d'attachement sécure, puis qui doute toujours de l'affection qu'on lui porte, ben il va avoir tendance à donner des fois trop de pouvoir à l'autre. Autrement dit, tu sais, quelqu'un qui s'aime assez pour dire je me laisserai pas traiter comme ça va réagir probablement plus vite. Que quelqu'un qui a une faible estime de soi. Alors, cela dit, faut faire attention parce que il y a personne qui est à l'abri d'une relation toxique. Même les personnes les mieux constituées, parce que puis c'est pas seulement des gens qui ont une faible estime de soi. Parce que je vous dis ça, il y a un processus qui est insidieux dans ça, qui est pas toujours évident. Puis la toxicité a différents degrés aussi. Alors parfois ça prend plus de temps, puis ça peut arriver à la personne la plus saine également.
Souvent ces gens-là vont se rendre compte que c'est à retardement qu'elles étaient dans une relation comme celle-là, une relation toxique. Dites-nous, quelles questions doit se poser quelqu'un qui justement vit une relation et qui se pose la question, suis-tu dans une situation de relation toxique ou pas?
Mm-hmm. Ben, parmi les questions qu'on peut se poser puis qui peuvent nous aider, là, le premier, c'est est-ce qu'on a le même niveau d'engagement dans la relation? Le deuxième, c'est est-ce qu'on a le même degré d'investissement par rapport à l'autre? Est-ce qu'on a une certaine équité dans la relation? Est-ce que c'est toujours le même qui fait le compromis? Puis, quand on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans cette relation-là? Autrement dit, est-ce que j'ai l'impression de servir les fins de l'autre ou j'ai l'impression que... Puis, est-ce que j'ai l'impression que c'est une relation qui me nourrit, qui m'apporte, qui me rassure? Parce qu'une relation, normalement, une relation saine, ça devrait enrichir, ça devrait rassurer. Alors, quand on a l'impression que ça mine de l'énergie constamment et irréversiblement, ben là, on a des bonnes chances de s'inscrire dans un processus toxique.
Est-ce que ça se peut que, puis ça s'applique probablement pas à tous les cas, mais dans mon entourage, les gens qui disaient qu'ils étaient dans une relation toxique, il y avait une raison principale pourquoi ils avaient tendance à rester, et c'était souvent une raison qui était de nature sexuelle, l'intensité sexuelle, la passion sexuelle. Ils se disaient, on peut pas être aussi hot que ça physiquement ensemble et qu'on n'ait pas un espoir psychologique pour que ça aille mieux après. Est-ce que la passion sexuelle, ça peut être un élément qui fait rester ça?
Mais ça peut être un élément, mais encore là, c'est une question de lecture puis de perception, parce que, puis là, je vais vous donner un exemple extrême, mais si vous prenez quelqu'un qui commet des violences sur sa conjointe ou sur son conjoint, puis si vous prenez l'exemple de quelqu'un qui est carrément une personne qui frappe ou qui bat, il y a aussi une grande intensité dans le processus de réparation puis dans le processus de reséduction. Et c'est ça qui fait que les gens entretiennent l'espoir. En même temps, des fois, ça biaise la lecture qu'on fait de la situation. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en psychologie, il y a une notion qu'on appelle le biais cognitif. Le biais cognitif, c'est une erreur de pensée. Mais à un moment donné, on est convaincu que finalement, on finit par être la cause du problème. Et c'est un petit peu ça qui s'installe, je vous dirais, dans le processus de la violence psychologique.
Puis j'ai envie de vous demander, si on se met dans la peau de la personne qui est toxique, là, qui va présenter des signes de violence comme ça ou de manipulation, est-ce qu'il y a une raison pourquoi quelqu'un se rend là? Est-ce qu'ils sont récupérables, en fait, ces personnes-là?
Ben, en fait, le défi de ces personnes-là, c'est leur motivation à aller en traitement. Parce que souvent, ce sont des gens qui ne souffrent pas toujours de ça. Ils vont souffrir quand il y a une rupture amoureuse, ils vont souffrir quand la personne les quitte. Mais le problème, c'est que ça s'inscrit souvent dans des types de personnalité où les gens sont très exigeants, mais ils ont peu d'autocritique. C'est-à-dire qu'ils sont plus centrés sur leurs besoins à eux que sur les besoins des autres. Okay. Alors, l'autre se trouve à être utilisé aux fins de la personne, mais sans nécessairement qu'elle le sache explicitement. Et donc, pour qu'il y ait une prise de conscience de ça, ben souvent, c'est un processus encore là, mais c'est difficile de tu sais, ça prend une certaine autocritique, puis ça prend des ressources, puis une autocritique, puis un désir de changer pour être capable d'aller en traitement pour adresser ces difficultés-là. Et souvent, ça va venir justement suite à des ruptures ou parce qu'effectivement, suite à une rupture, ces gens-là vont souffrir aussi beaucoup.
Oui. Et si la personne, donc, accepte d'aller en traitement puis accepte le fait qu'elle a un problème, est-ce que c'est possible de devenir une personne saine après pour dans ces relations-là? Est-ce qu'on peut vraiment guérir, entre guillemets, quelqu'un là, d'un comportement comme ça?
Ben, c'est possible d'amener la personne, un, à prendre conscience du problème, deux, à mieux gérer ses émotions, et trois, à développer un peu d'empathie pour l'autre personne, c'est-à-dire à prendre conscience des enjeux relationnels qui vont toujours saper les relations. Mais le problème, c'est que souvent, quand ils finissent une relation, ils vont trouver une autre personne qui a les mêmes enjeux pour reprendre une relation. Alors, souvent, ce qui va motiver ces gens-là à changer, ben, c'est justement d'éprouver une certaine détresse, de perdre des gens autour, puis que de se retrouver un peu plus seuls, je voudrais. Ou encore, parfois, ils sont contraints dans les formes les plus graves, ils vont être contraints au traitement par la cour parce qu'ils ont commis des violences. Mm-hmm. Mais cela dit, oui, les gens peuvent changer. C'est un long processus. C'est pas simple parce que une structure, on change pas ça comme ça. Mais souvent, la personne, sans nécessairement changer dans l'essence de sa structure, va développer des mécanismes pour être capable justement de mieux gérer ses comportements, de mieux gérer ses relations. Mais encore là, c'est un long processus. Puis il faut y investir les énergies puis les compétences professionnelles nécessaires.
Et si on a autour de nous quelqu'un qui est dans une situation comme ça, qui est dans ce type de relation-là, puis cette personne-là a espoir que ça va changer parce que justement, c'est possible de changer, entre guillemets, et il a dit, il va aller consulter, puis il va changer, puis nous deux, ça va aller mieux après. C'est quoi le meilleur comportement à adopter pour une amie ou un proche, par exemple? Parce que des fois, de trop se mêler des affaires de l'autre, c'est pas nécessairement bon non plus, là.
En fait, vous avez tout à fait raison. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est que l'extérieur, devant ça, vont trouver ça aberrant, puis vont, pour aider l'autre, porter un jugement. Puis ça va amener la victime à se cacher, à ne plus dire, à essayer de minimiser. Et ça, c'est pas aidant. Parce que justement, ça isole encore plus la personne. Fait que la meilleure attitude à avoir, d'abord, c'est de pas porter de jugement. Deuxièmement, c'est de demander comment on peut aider et non pas d'imposer une forme d'aide. Et ensuite, de questionner la personne sur sa lecture de la situation et non pas d'imposer la nôtre. Parce que des fois, de l'extérieur, il y a des choses qui paraissent clairement de façon évidemment abusive, mais pour la personne, ça ne l'est pas, puis elle n'est pas rendue là. Fait que d'introduire un questionnement en disant, mais est-ce que c'est la norme de traiter quelqu'un comme ça? Est-ce que c'est normal que tu te sentes tout le temps comme ça, que tu as toujours cette crainte-là que la personne explose? Est-ce que c'est normal que tu te sens toujours coupable comme ça? Et donc d'amener un questionnement, mais ce qu'il faut éviter, c'est que la personne s'isole davantage puis se referme davantage. Imposer une vision en disant à quelqu'un qu'il y a une situation qui n'a pas de bon sens, ça fonctionne jamais. Parce qu'il y a personne qui se lève un bon matin en me disant, tiens, j'ai envie de me mettre dans le trouble aujourd'hui, j'ai envie de souffrir. Mm-hmm. Donc, il y a personne qui fait ça sciemment puis délibérément. Et souvent, quand les gens se comportent comme ça ou restent dans une situation comme ça, c'est soit parce qu'ils ne la voient pas ou qu'ils ne l'aperçoivent pas comme ça. Et ça, justement, il faut changer cette perception-là tranquillement. Soit parce que ils se sentent pas les ressources pour être capables de faire face à la situation. Alors, d'amener la personne à voir les choses et de lui dire qu'il existe des ressources pour consulter avoir de réponse toute faite, puis d'être là pour supporter, mais sans faire en sorte qu'elle s'isole, puis qu'elle sombre dans le secret, puis là, elle veut plus parler à ses amis pendant des semaines ou des mois. C'est la meilleure conduite.
Mais je vais vous dire, d'être dans la peau d'une amie, dans des situations comme ça, c'est pas nécessairement facile non plus, parce qu'on a le réflexe des fois de dire, mais voyons, c'est tellement évident qu'il te traite comme de la merde, pourquoi tu t'en vas pas? Puis là, à chaque fois qu'elle se confie à toi, il y a une espèce de sentiment de coudon. Qu'est-ce que t'attends? Une petite impatience par rapport à la lenteur d'agissement ou à la lenteur de réaction de la part de l'ami. Puis des fois, on vient un petit peu exténué d'entendre parler tout le temps de ça et qu'il n'y a pas rien qui change au bout de la ligne. Fait qu'être dans la peau d'une amie à qui on se fait confier des choses comme ça, c'est pas nécessairement facile pour tout le monde non plus, hein?
Ben, c'est parce que l'équation qu'on fait pas quand on se dit c'est tellement évident que ça n'a pas de bon sens la situation dans laquelle elle est. Ce qu'on oublie de se demander dans l'équation, c'est qu'est-ce qui fait que malgré le fait que c'est évident, la personne reste dans cette situation-là. Et ça aussi, il faut adresser ça souvent en traitement.
Ouais. Non, je comprends. Fait que ça veut dire que la meilleure façon d'agir, c'est d'être présent, d'écouter l'autre et de les diriger peut-être vers des ressources professionnelles qui vont pouvoir les aider. Mais avant tout, il faut que la personne réalise qu'elle est dans une relation qui est malsaine, là.
Mais je pense que comme société, on a une œuvre éducative à faire. Ouais. C'est-à-dire que plus on va faire de l'éducation tôt dans les écoles, plus on va éduquer justement les enfants à... Vous savez, on les a éduqués confrontés aux comportements inacceptables sur le plan des attouchements de la sexualité. Il faudrait faire la même chose au niveau de des agressions psychiques ou des violences psychologiques ou de la toxicité. Il faudrait faire la même chose pour que les gens soient sensibilisés rapidement. Puis après ça, bien évidemment, plus on va prévenir, plus on va travailler tôt sur les enjeux d'attachement, sur les enjeux d'estime de soi, plus on va protéger les gens. Souvent à l'école, tu sais, faut faire attention, faut investir les jeunes justement parce que c'est le temps, puis parce qu'ils sont en développement, pour ne pas justement en faire des adultes fragilisés. Alors donc il y a ces deux éléments là. En fait, puis il y a un troisième élément, c'est l'accès aux ressources. Okay. Et pour la victime et pour les agresseurs.
Et avant de vous quitter, Madame Gros, juste une petite question. Quand on parle de relations toxiques, on a tout le temps en tête l'image de l'homme qui est violent ou dominant ou manipulateur envers la femme. Mais j'ai l'impression que le thème de toxicité, c'est aussi présent chez les femmes. Ça se peut-tu?
Mais tout à fait. Ouais, hein? Vous pouvez avoir une relation toxique dans une amitié féminine. Vous pouvez avoir une relation toxique entre mère et fille. Vous pouvez avoir une relation toxique entre père et fils, entre père et fille. Donc, la relation, ça concerne deux individus. Et la toxicité, ça concerne le mal-être ou le dommage que ça cause tranquillement, insidieusement à autrui quand on reste dans cette situation-là.
Madame Gros, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça a été un plaisir.
Merci beaucoup. Docteur Christine Gros est psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. C'est pas évident, c'est complexe, hein, ce type de relation-là. Ouais. Et comme n'importe quel phénomène, quand c'est extérieur à ce que toi tu vis, on a tendance à avoir de la difficulté à se mettre dans la peau de l'autre. Puis vous avez, il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent présentement qui connaissent des gens qui sont dans ce type de relation-là et qui comprennent pas pourquoi la personne s'en va pas. C'est très difficile de se mettre dans les souliers d'une autre personne quand c'est un thème ou un sentiment qui est extérieur à ce que toi tu vis.
Et je trouvais intéressant le fait qu'on ait parlé des relations de couple, mais aussi qu'on ait étendu un peu, tu sais, relations amicales, ouais. Familiales aussi, des fois, c'est pas tout le temps évident. Il va y avoir des gens qui vont avoir tendance à vouloir en profiter, ouais. Profiter de l'autre et...
Puis tu sais, quand tu...
Pas toujours sain.
Ouais, puis quand tu retournes un petit peu dans le passé, j'imagine que ça vous est... tous ou presque déjà arrivé, peut-être plus chez les filles, mais ça nous est tous arrivé là, qu'à un moment donné, notre mère nous rencontre et nous dit « Cette amie-là, là, pas sûr qu'elle est bonne pour toi. Cette amie-là, là, j'ai un mauvais feeling. Me semble qu'elle ne te traite pas comme il faut. Me semble que... Moi, je n'ai eu là dans ma vie, là, puis j'ai des noms en tête. Puis je me dis, c'est vrai, ma mère, elle m'avait dit, c'est pas une bonne personne pour toi. Puis après coup, avec ce qu'on vient de discuter avec Mme Gros, l'implication dans la relation, ce que tu es prêt à faire pour l'autre personne, le sentiment d'être jamais à la hauteur, de jamais en faire assez, de jamais être assez belle, jamais être assez bonne pour être à la hauteur de cet ami-là. Mm-hmm. Ça, je l'ai vécu, là. Fait que tu sais, peut-être en amitié, certainement, oui. Fait que c'est sûr que quand tu passes en revue les relations que tu as eues dans le passé avec ces thèmes-là, c'est facile de se dire, oh, OK, peut-être que celle-là, là, c'était pas la relation la plus saine pour moi. Mais tu avais raison quand tu as dit à Mme Gros, c'est souvent après qu'on s'en rend compte.
Ben, c'est ça.
Beaucoup
c'est a posteriori. Là. Oui. C'est très rarement pendant qu'on est dans la relation ou sinon, ça va être à la toute fin de la relation quand on vient pour y mettre fin.
Oui. En tout cas, si vous pensez que vous êtes là-dedans présentement, si vous pensez que vous vivez une situation similaire, puis vous voulez pas vous confier à des proches ou à des amis, ben allez donc chercher de l'aide professionnelle. Il y a des gens qui vont être là pour vous écouter, des gens qui sont qualifiés, des gens qui vous connaissent pas, donc ils vont avoir une opinion très, très neutre au sujet. C'est ça qui est difficile des fois dans le fait de se confier à des proches ou à des amis parce que ces gens-là nous aiment. Ils vont tout le temps, à la base, prendre pour nous ou avoir un petit biais en notre faveur. Quand tu as quelqu'un de professionnel devant toi qui te connaît pas et qui connaît pas ton conjoint ou ta conjointe, c'est une opinion qui est neutre et des fois, ça éclaire un petit peu mieux que des proches ou des amis. Écrivez-nous 25226, on s'en va à la pause.
Le Québec vibre au rythme du Canadien. Samedi 19h, les Canadiens affronteront les Pingouins.
Il y a quoi un but et dégagement ensuite.
Le hockey des Canadiens vous est présenté par Essor Assurance. Essor, plus de 60 ans à partager la fièvre du hockey.
Le réseau Cogeco, radiodiffuseur officiel du Canadien de Montréal. Au FM 93.
Ça, c'est moi toute seule au chalet. Ça, c'est moi toute seule, sans mes collègues de travail. Ça, c'est moi, toute seule chez moi, de 9 à 5, puis de 5 à 9. Puis ça, ben, c'est moi, toute seule, avec moi.
On ne veut pas revivre ça. Pour continuer de profiter de nos activités, portons le masque
et gardons nos distances dans les rassemblements. Plus que jamais, on doit se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Tout le monde en place pour un déjeuner à la bûche. Amenez vos amis ou la marmaille, puis venez vous en voir comment est-ce qu'on a réinventé vos déjeuners. Vous allez vous bourrer à fraises dans le plaisir, puis vous verrez plus jamais vos œufs de la même manière. Entre le Bello et le Château, venez nous voir à la bûche.
Cet été, votre vague de soutien envers nos entreprises québécoises va se transformer en vague de prix pour vous. Grâce au FM 93 et Chlorophylle, plus de 10 000 $ en prix à gagner. Textez local au 25226, magasinez chez les marchands participants, dont
Volvo de Québec, Écosport et Matelas Dauphin.
Faites-nous parvenir une photo de votre facture. Plus de 10 000 $ en cartes cadeaux seront attribués, incluant une session de magasinage privé de 5 000 $ offerte par Chlorophylle. Textez local au 25226. Une idée de votre station. Une radio d'ici, FM 93.
Ce soir, on va sûrement prendre un verre dans la cour. Puis vous autres?
Ben, on pensait aller au resto, se chercher de quoi, puis manger ça dans la cour.
Cool.
Hey, vous autres, vous faites quoi pour vos vacances, finalement?
On a un projet de camping dans la cour avec les gars. On va profiter du soleil dans la cour, puis se rapprocher de la nature de la cour, là.
C'est le fun, ça.
Vous allez en passer du temps dans la cour cet été. Aussi bien la mettre à votre goût. Obtenez 40 % de rabais sur une vaste sélection de produits saisonniers et plus encore. En magasin seulement, les conditions s'appliquent.
Réno Dépôt, sortez chez vous.
Avec l'arrivée de l'été, Rona a demandé à des rénovateurs comment ils se sentent à l'idée de sortir travailler dehors.
Ben, regarde-moi le sourire.
Marcos, parce qu'on est à la radio.
Ah, oups, excusez. Regarde-moi le sourire.
Les gens ne voient pas.
Non, mais ils m'entendent.
Le meilleur de la maison est dans votre cour. Chez Rona, obtenez 40 % de rabais sur une vaste sélection de produits saisonniers et plus encore. Dans les magasins participants, des conditions s'appliquent. Rona.
Excusez-moi, pour aller au lac Épinette, je passe par où?
Pas compliqué. Tu prends le chemin de la Prudence.
Pour les chutes à l'ours?
Le chemin de la Prudence.
Le chalet Rémy?
Chemin de la Prudence.
Le Belvédère?
Chemin de la Prudence. Chemin de la Prudence.
Coudon, connaissez-vous un autre chemin?
Oui, mais l'autre, te le conseille pas.
En VTT, peu importe votre destination, portez votre casque, ajustez votre vitesse et ne conduisez pas avec les facultés affaiblies. Un message du gouvernement du Québec.
Cette semaine, c'est les offres 8-8 chez Métro. On vous fait économiser sur plein de vos produits préférés, mais faut faire vite-vite.
Les offres 8-8? Oh ben parfait, je vais chez Métro vite-vite.
Vous faites bien, il y a des prix réduits 8-8 partout en magasin sur une foule de produits sélectionnés. Comme par exemple, les paniers de 3 litres de pêche de l'Ontario sont 3,88, le filet mignon entier est 9,88 la livre et la demi-longe de porc est 1,88 la livre. C'est pour ça qu'il faut faire vite-vite.
Pour économiser avec les offres 8-8, Métro, c'est mon épicier d'ici.
Détails et conditions sur métro.ca.
On est resté jour et nuit à la maison, à voir nos proches à distance. Et quand on se tient ensemble, on se tient à 2 mètres de distance. On se désinfecte les mains avant de partir à l'épicerie, en arrivant à l'épicerie, en sortant de l'épicerie, en revenant de l'épicerie, puis après avoir lavé son épicerie. On sort sa trousse de couture pour se fabriquer un masque, et on en fait une coupe de plus pour ceux qui ne savent pas coudre un bouton. On fait tellement d'efforts pour se protéger et protéger les autres. Ce serait plate de gâcher ça sur la route. S'il vous plaît, partageons la route. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Vous avez un immeuble à revenu à vendre? Peu importe s'il a besoin de réno ou non, il l'achète rapidement chez Airfortin.com. Un terrain, une maison, un immeuble qui a besoin de réno ou non, à vendre dans la région de Québec, Airfortin.com est votre acheteur. Airfortin.com.
Caravane Marco, boulevard Charest au centre-ville de Québec, vient de recevoir les nouveaux modèles Laredo, Apex, Salem et Freedom Express 2021. Oui, oui, 2021. Et au meilleur prix. Même le motorisé classé Forester 25 pieds à partir de 84 895 $. Wow! En plus, tournez la roue et courez la chance de gagner 1000 $ cash. Caravane Marco, 600 unités en inventaire dans leurs 4 succursales. Membre du plus grand groupe de VR dans l'Est du Canada. Caravane Marco, 1540 Cyril Duc.
Actualité, commentaires, analyse, opinion. C'est Bouchard en parle.
Avec Elisabeth Crête, FM 93.
93. Oh, j'avais hâte de vous présenter cette entrevue-là que j'ai fait ce matin. J'ai vraiment, vraiment très, très hâte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, notre collègue Anne-Sophie Jobin a fait une chronique dans laquelle elle exposait ce que c'était la vie d'une femme qui était née en 1900 versus la vie d'une femme comme Anne-Sophie qui est née en 99.
C'était même en début de semaine.
Ah oh, oui, déjà? Oui. Ah, mon Dieu, c'est vrai, c'était pas la semaine passée, t'as bien raison.
Il n'y a pas plus tard que lundi ou mardi.
C'est vrai. Puis là, elle expliquait, bon, une femme qui est née en 1900, elle a passé au travers 2 guerres mondiales, à travers la guerre du Vietnam, à travers une pandémie, celle de la grippe espagnole, à travers le crash boursier. Mettons qu'il y a eu un petit peu plus d'épreuves et d'événements que celle qui est née en l'an 2000, par exemple. Là, on vit notre premier événement mondial d'envergure, c'est-à-dire le coronavirus, en fait, la pandémie de la COVID-19. Et on en a eu là, des événements, en fait, des événements tragiques au fil des dernières années, sauf que l'ampleur de la COVID-19 n'était pas nécessairement là. Là, c'est vraiment très spécial. On a mis le Québec sur pause pendant 2 semaines au complet. Les commerces qui ont des difficultés financières et ce, partout à travers le monde. Alors, j'ai voulu savoir comment une femme qui est née en 1900 ou dans ces années-là vivait la période actuelle. Comment ça s'est passé, sa vie au complet? Et j'avais fait un appel à tous. S'il y en a qui connaissaient des femmes qui ont une centaine d'années présentement. Je sais que c'est pas mal, on est pas mal dans les dernières années où on va pouvoir parler à ces gens-là qui ont vécu, par exemple, la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, ou du moins, ils vont finir par malheureusement tous disparaître. Mais on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui le témoignage d'une femme qui s'appelle Fernande Côté. Fernande Côté va célébrer son 100e anniversaire jeudi prochain.
Elle n'a pas encore.
Elle
n'a pas long.
99 ans. Elle est née le 7 août 1920. Elle va avoir 100 ans jeudi prochain. Elle a habité à Montmagny toute sa vie. Alors, on va pouvoir avoir une idée de comment ça se passait. Et croyez-le ou non, elle habite encore dans sa maison, seule. Et elle a encore son permis de conduire.
Chapeau.
Oh!
C'est une femme allumée. Vraiment d'agréable compagnie. J'ai passé un excellent moment au téléphone avec elle ce matin, mais je n'en revenais pas à quel point elle est en forme. Écoute, elle conduit encore. Alors, elle tient maison toute seule, là.
Il y en a qui ont peut-être quelques décennies de moins et qui aimeraient pouvoir encore conduire.
Absolument.
Et elle a encore ce loisir-là, cette possibilité-là de le faire.
Puis je vais te dire, je pense qu'elle est parmi les plus âgés au Québec à détenir un permis de conduire. Si
c'est sûrement, pas 99 ans, conduire encore.
Là. Si c'est pas la plus âgée, là, et vraiment, écoute, dans les plus âgés, ça c'est sûr et certain. C'est admirable. Et elle a eu une vie bien remplie, Mme Côté, et on a pu discuter ensemble ce matin, puis je veux vous partager ce que ça a donné, cette discussion-là. J'aurais passé des heures à prendre un café avec elle puis à parler de sa vie au complet. Malheureusement, le temps était limité. Je trouve ça bien dommage, mais j'aurais parlé avec elle pendant des heures. Moi, ces gens-là ont du vécu, comme vous ne pouvez pas vous imaginer, puis ils ont tout à m'apprendre. Alors, la première question que j'ai parlé à Mme Côté, c'est, dans le contexte actuel, on s'entend qu'on vient de passer 2-3 mois de confinement, les personnes les plus âgées étaient les plus à risque. On craignait pour leur vie, pour leur santé. Alors, la question était de mise, Mme Côté, comment allez-vous? Comment s'est passé le confinement?
Ça s'est bien passé pour moi parce que d'abord, je suis toujours dans ma maison. Alors, je n'étais pas confinée dans un petit appartement. Et ma fille et son mari sont venus souper avec moi presque tous les soirs. Oui, on a su respecter les distances et tout ça. Alors, disons que j'ai été privilégiée.
Puis pour ceux qui font le saut en disant, coudon, les personnes qui sont pas à risque ne pouvaient pas visiter les personnes à risque, Mme Côté a 100 ans. Fait que ses enfants, vous pensez qu'ils ont quel âge? Là?
70 en montant.
C'est ça l'affaire. Là.
Ouais.
Fait que c'était la première question que j'ai demandé à Mme Côté. Ensuite, on a parlé de la Première Guerre mondiale. Donc, la Première Guerre mondiale s'est terminée avant la naissance de Mme Côté. Puis elle m'a dit, moi, je l'ai pas tellement vécu. Je l'ai entendu parler par après, mais je peux pas dire que ça a fait partie vraiment de ma vie. Par exemple, la Deuxième Guerre mondiale. L'a vécu très activement. Alors, la deuxième question à Mme Côté, c'est comment vous avez vécu la Deuxième Guerre mondiale? Elle avait autour de 20 ans à ce moment-là.
J'avais de 19 ans, oui, hein, 5 ans. Là, on a eu connaissance parce que tous les jeunes de mon âge, les garçons spécialement, étaient susceptibles d'aller à la guerre. Et plusieurs y sont allés et n'en sont pas revenus.
Les gens, vous connaissez?
Oui, très bien.
Oui.
Même des amis dans ça. Difficile, très difficile et inquiétante. J'avais un frère de cet âge-là qui a été exempté parce que il y avait les triplons. Et celui qui est devenu mon mari par la suite avait, lui, une jambe un petit peu plus courte que l'autre. Ce qu'ils avaient exempté. Mais plusieurs de nos amis, de mes amis, y sont allés et ils n'en sont pas revenus. Les gens ont parlé beaucoup, mais ils étaient surtout inquiets. Et les familles qui avaient, dont les garçons étaient partis, c'est évident qu'ils vivaient d'inquiétude constante. je me souviens d'avoir vu une famille où il y en avait deux, et que le père avait une grande carte géographique, là, où il suivait les nouvelles à la radio tous les jours, suivait l'évolution, savait où j'étais rendu dans telle ou telle ville. C'était très inquiétant.
Imaginez, là, il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Là. Ben tu ne communiquais pas par courriel pour savoir ton fils était rendu où. Et que le père avait une grande carte géographique, il suivait les nouvelles à la radio, puis à tous les jours, il écrivait sur sa carte où est-ce que ses fils étaient rendus. Écoute, le sentiment là, d'impuissance et d'inquiétude. Puis si tu avais un problème, un petit problème de santé, puis tu étais un homme, là tu étais chanceux, tu étais exempté, puis tu n'avais pas à aller à la guerre. T'sais. Son frère, c'était les pieds plats, et son mari, à l'époque, c'était une jambe un petit peu plus courte que l'autre.
C'est fou pareil.
Imaginez.
Il y avait des coupons de rationnement dans ce temps-là. Les gens étaient rationnés ici, même au Canada. Ouais.
Oui. Et là, donc, à Mme Côté, j'ai demandé, ça a été quoi les impacts de la Deuxième Guerre mondiale pour vous, une fois que ça a été terminé, comment vous viviez?
Bien, ceux qui sont venus, évidemment, c'était la grande joie. Ceux qui ne sont pas venus, ça a été une peine. Il faut dire aussi que à Montmagny, à ma ville natale, il y avait un camp militaire. Alors, on a connu beaucoup de gens qui faisaient partie de tout ça, mais qui n'étaient pas nécessairement des gens de Montmagny.
Alors, c'était encore plus près d'elle, en fait, parce que le petit village qui était, ou la petite ville qui était Montmagny à l'époque, bon, on s'entend que probablement qu'il y avait beaucoup de personnes qui se connaissaient. Puis, s'il y avait un camp militaire, ben la plupart des gens que tu connaissais, c'était des gens qui allaient se rendre à la guerre, là. Mm. Ça a dû être vraiment difficile. Imaginez-vous, là, demain matin, tous les hommes entre, je sais pas moi, mettons entre 20 ans et 35 ans, par exemple, doivent automatiquement aller à la guerre.
Imagine. Je pense que c'était en 18 et 30.
En 18
si
et 30,
je me souviens, c'était ça.
Pour la conscription.
Ouais.
Et là, on parle de la situation ici au Québec. C'était pas aussi chaud qu'est-ce qui se passe en Europe. Imaginez pour les gens qui l'ont vécu là-bas et qui étaient sur le terrain, qui entendaient les bombardements, qui avaient besoin de se réfugier du moment que les sirènes retentissaient dans la ville. Ça devait être autre chose aussi. Là.
Ah non, écoute, on n'est pas dans la même catégorie que ce qu'on vit présentement en termes d'inquiétude, disons, pour nos proches. Là. Même si, oui, on a beaucoup d'inquiétude par rapport à la maladie, on veut faire attention pour pas que ça touche des gens qui sont près de nous. Mais quand même, il n'est pas question qu'un enfant, que votre fils de 20 ans se rende à la guerre demain matin. Là. J'imagine pas le sentiment que ça devait être. Ensuite, elle a vécu, évidemment, le crash boursier de 1929. Et c'est ce que j'ai demandé à Mme Côté. À un très jeune âge, le crash boursier est arrivé. Vous aviez, bien sûr, une dizaine d'années à cette époque-là. Mais quel souvenir vous avez de cette période-là?
J'avais 9 ans, évidemment, et mes parents avaient deux commerces. Mon père était bijoutier et maman chapelière. Alors, on avait à ce moment-là des coupons hein, pour le beurre, pour le sucre, et nous, on n'en a jamais manqué. Disons que je faisais partie d'une famille un petit peu plus aisé que la moyenne.
Parce que vos deux parents étaient commerçants.
Oui. Alors, moi-même, j'en ai eu moins connaissance. Mais les gens étaient inquiets, c'est sûr. Puis, c'était difficile de se procurer des victuailles, là, souvent essentielles. Mais sincèrement, nos parents ne parlaient pas de leurs difficultés beaucoup. Difficultés financières, ne parlaient pas de ça aux enfants.
C'est vrai que, tu sais, aujourd'hui, on est beaucoup plus... Mettons qu'un enfant va être beaucoup plus alerte par rapport à ce que vont vivre ses parents, même si les parents qui vivent des difficultés vont tout faire pour cacher ça aux enfants. Là, c'est encore présent dans beaucoup de familles, mais à l'époque, il n'y avait juste pas de communication comme ça. Même si on manquait des coupons de beurre ou de sucre, probablement que les enfants n'allaient jamais s'en rendre compte ou n'allaient jamais le savoir. T'sais. C'est vraiment, on discutait pas là, de ces choses-là à l'intérieur des familles. Maintenant, c'est un petit peu plus... un petit peu plus ouvert sur certains sujets.
Imaginez à l'époque à quel point c'était déjà tabou de parler d'argent. Aujourd'hui, ça l'est encore, mais ça l'est moins. Donc, c'est sûr et certain que peut-être que les enfants comprennent un peu plus la réalité dans laquelle évoluent leurs parents. Puis les parents leur communiquent aussi peut-être un peu plus quand il y a des difficultés comme celle-là. Mais à l'époque, c'était tellement tabou de parler de ça. Que
oublie ça, là.
Il n'était pas pour en parler aux enfants, là. Oublie ça. Le village aurait su au complet.
Oui, puis tu sais, elle, c'est vrai, t'as raison. Puis elle, ses deux parents étaient commerçants. Alors, elle est un petit peu plus aisée. La famille est un petit peu plus aisée. Alors, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Ensuite, bon, vous savez, comme j'ai dit au début du segment, Madame Côté habite seule dans sa maison. Elle a toujours son permis de conduire au moment où on se parle. Mais là, j'ai voulu savoir, depuis combien de temps vous habitez seule? Vous avez perdu votre mari il y a combien d'années, là, maintenant?
36 ans.
Combien de temps?
36 ans. Il est mort d'un cancer fulgurant à 61 ans.
Alors, vous avez vécu seul pendant toutes ces années-là?
Tout, oui, dans la maison familiale que j'ai gardée pour continuer la vie de famille autant que possible. J'étais déjà impliquée dans beaucoup de mouvements et j'ai continué, évidemment. Puis ça m'a aidée. Puis les enfants sont présents aussi. Et ça aussi, ça m'a aidée parce que la famille, pour moi, c'est extrêmement important. Fait qu'en gardant la maison familiale, c'est plus facile de recevoir souvent.
C'est impressionnant, là. Écoute, elle a 100 ans, ça fait 36 ans qu'elle habite seule dans la maison familiale. De s'être occupée d'une maison comme ça, pendant aussi longtemps en étant seule, je trouve ça exceptionnel.
Elle doit avoir un coup de main, mais elle doit avoir aussi peut-être un coup de main de ses enfants.
Ben, c'est là, sûr.
Ses enfants, ses petits-enfants qui viennent faire de l'entretien une fois de temps en temps parce que...
Qui viennent la visiter.
C'est ça.
Ça m'a tellement touchée quand tu as dit « la famille, pour moi, c'est très important ». Tu sais, c'est une autre époque. Hein. Maintenant, je trouve que des fois, le sens de la famille se perd au sein de certaines familles. Mais à l'époque, c'était ça. Il fallait garder la maison familiale parce que c'était la maison de notre famille. Puis pour recevoir les enfants, c'était dans la maison familiale qu'on allait le faire. Mais je veux dire, il reste qu'elle allait devoir s'en occuper la plupart du temps tout seul. Là. Fait que non, je trouve ça vraiment exceptionnel. Puis il y en a peut-être qui se demandent, et c'était mon cas, est-ce que vous avez pratiqué un métier dans votre vie?
Non. C'était pas tellement la mode au moment où j'aurais pu être sur le marché du travail. Et à Montmagny, c'était une petite ville de à peu près 12 000 habitants. Il n'y avait pas tellement de travail pour les filles. Et en même temps, étant donné que mes parents avaient chacun un commerce, j'allais aider à l'un et à l'autre, mais sans être obligée. J'ai été une enfant privilégiée.
Au moment où elle aurait pu travailler, ben, c'était pas la mode, tu sais. Puis c'était à Montmagny, puis des jobs pour les filles n'avaient pas tant que ça. Puis elle était occupée avec les commerces de ses parents aussi, mais sans en être obligée, par exemple, tu sais. Je trouve qu'elle a une lucidité incroyable.
Mais il y a aussi plusieurs femmes de sa génération qui, elles, ont dû travailler pendant la guerre.
Absolument.
Parce que souvent, les hommes, oui, allaient au front, mais il y avait plusieurs femmes qui, elles, allaient travailler dans les usines pour pallier à l'absence d'hommes qui étaient, justement, outre-mer.
Et puis, imagine, elles s'occupaient des enfants tout seul à la maison aussi. Et puis, c'était pas des situations difficiles. En plus de s'inquiéter des fois quand ton propre fils était parti. Alors, ça devait vraiment, vraiment pas être évident. Ensuite, j'ai voulu qu'on parle du droit des femmes. Du droit de vote, en fait, des femmes. Parce que vous savez que lorsqu'elle est née, Mme Côté, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et le débat sur le droit de vote des femmes s'est passé alors qu'elle était assez vieille, assez active pour s'en rendre compte. En fait, le droit de vote a été officiellement obtenu le 25 avril 1940. Alors, c'était au moment, en fait, elle est née en 1920. Fait qu'on s'entend que c'était le moment où elle aurait pu normalement voter dans les conditions d'aujourd'hui où le droit de vote est à 18 ans. Alors, j'ai voulu savoir, est-ce que vous vous souvenez de l'époque où on débattait du droit de vote des femmes? Et quand vous l'avez obtenu, le droit de vote, est-ce que vous vous souvenez, ça a été quoi votre réaction?
Oui, je me souviens des batailles qui ont eu lieu, oui. Mais on parlait beaucoup, hein, sur les journaux aussi. Fait que on suivait ça parce que ça nous intéressait. Oui. Mais on était fiers, on était quelques-unes ensemble, là, puis tout le monde était très heureux de cette nouvelle-là, puis qui fait couler tant d'encre.
Les débats, il y en avait. Et ensuite, j'ai demandé, est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier vote? Comment vous l'avez vécu?
Oui, à peu près, oui. C'était un petit peu intimidant, si on peut dire, de se présenter dans les pôles de vote, puis... C'était, ben, c'était nouveau aussi. Je sais pas, c'est nouveau, Marquis.
Est-ce qu'il y avait des hommes qui vous regardaient quand vous êtes allé la première fois?
J'ai pas vu trop, mais on entendait parler qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'étaient pas en faveur du vote des femmes, c'est sûr.
Ça a dû être une période d'adaptation quand même. Être femme et avoir le droit de vote, là, les premières, en fait, qui ont voté, là, écoute, ça devait pas être très, très agréable de marcher dans un bureau de vote, mettons, là, avec tous les regards.
Je sais pas, puis, mais il y avait aussi, ça a été raconté par plusieurs femmes de cette époque-là, qui se disaient, tu vas, OK, tu vas voter rouge, tu vas voter bleu,
ouais.
Puis c'est le mari qui disait comment voter.
Ah
là.
Oui, ça c'est clair. Avant de pouvoir faire un vote éclairé, je sais pas ça a pris combien de temps, mais on réalise à quel point le droit des femmes a avancé depuis l'époque où Mme Côté est née et maintenant. Mm-hmm. Et c'est ce que je lui ai dit, Mme Côté, on en a fait du chemin au niveau du droit des femmes depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça vous fait de constater tous ces progrès-là?
J'en suis très heureuse de tous les progrès qu'on a pu faire, qu'on puisse au moins se prononcer sur des sujets auxquels on n'avait pas le droit de parler. C'est une victoire pour moi. C'est tellement différent. Il n'y a rien qu'on peut vraiment comparer. Si on pense aux loisirs des jeunes à ce moment-là, disons à partir de 15-16 ans, là, jusqu'à... il n'était pas question d'aller dans des bars, il n'y en avait pas. Pas question que les filles boivent, comme aujourd'hui. Et les réunions, les amis avaient lieu dans nos maisons, beaucoup plus qu'ailleurs.
Pas le droit de boire, pas le droit de sortir dans les bars. C'est un cauchemar, ça. Imaginez. Mais non, je blague. C'était une autre réalité, là, totalement. Mais c'est pour dire à quel point on n'est pas. Moi, ça me fait capoter. Je trouve ça incroyable qu'une femme ait vécu au travers toutes ces époques-là. Elle a été à même de constater toutes les avancées de la société.
L'évolution qu'on a connue dans les 100 dernières années, oui.
C'est vraiment incroyable. Et la dernière question que je voulais lui poser, c'est Madame Côté, si on vous donnait le choix aujourd'hui de choisir votre année de naissance, est-ce que vous choisiriez 1920 encore ou vous aimeriez être né un petit peu plus tard pour profiter de d'autres avantages?
J'ai aimé cette période-là parce que j'y étais. Mais j'aurais choisi quelques années plus tard, oui. Où il y a eu plus d'avantages pour les femmes. Tu sais, ça nous a permis de s'émanciper un petit peu plus, puis d'avoir droit au chapitre dans des discussions auxquelles on n'était pas invité souvent.
Alors, Madame Fernande Côté va célébrer son 100e anniversaire le 7 août prochain. Alors, c'est jeudi prochain, très exactement. Je veux lui souhaiter un incroyable 100e anniversaire. Ce n'est pas le party, probablement, qu'on aurait pu lui faire parce qu'on est en période de pandémie, mais quand même, je lui souhaite de continuer d'être aussi bien entourée. Je la remercie aussi pour son temps de m'avoir accordé cette entrevue-là et d'avoir pu partager avec vous son témoignage et ce qu'elle a vécu au cours des 100 dernières années. Je trouve ça exceptionnel. Et je vais répéter ce que j'ai dit un petit peu plus tôt à l'émission. Je me considère privilégiée d'être née à l'époque où on est présentement. J'ai jamais eu à me battre pour pouvoir voter. J'ai jamais eu à me battre pour être acceptée dans certains milieux de travail, pour avoir le droit de travailler, premièrement. Alors, c'est exceptionnel ce qu'on vit présentement au niveau du droit des femmes. Quand on regarde en arrière, en fait, on se rend compte à quel point on a évolué. Même si c'est pas parfait, puis je le répète, mais c'est infiniment mieux que ce que c'était avant. Mais c'est grâce à des femmes comme Fernande Côté qui ont passé au travers ces étapes-là et qui ont décidé de lever le bras dans les airs et dire, nous, je pense qu'on devrait avoir le droit de voter. Nous, je pense qu'on devrait avoir le droit de travailler aussi. Alors, c'est une richesse incroyable qu'elle possède. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu partager ça avec vous et je lui souhaite encore une fois un merveilleux 100e anniversaire dans sa maison, avec sa voiture, parce qu'elle habite seule dans la maison familiale depuis toutes ces années et elle conduit encore à 100 ans. C'est incroyable. Vraiment. Merci beaucoup, Mme Côté, pour l'entrevue. On s'en va à la pause.
La grand-messe du rock avec Yvon Delisle. radio au FM 93. C'est la grand-messe du rock.
Si votre ami s'apprête à conduire après avoir consommé de l'alcool ou de la drogue, vous pouvez lui dire...
Je t'en supplie, ne fais pas ça. Pense à nous, à toi, aux innocents sur la route. La vie telle que tu la connais pourrait changer à jamais. Réfléchis aux conséquences de ces actes. Ne pars pas. Non. Non.
C'est beau, là. Je la prendrai pour mon auto.
Faites un drame pour en éviter un. Pas d'alcool ou de drogue au volant. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Ce soir, on va sûrement prendre un verre dans la cour. Puis vous autres?
Ben, on pensait aller au resto, se chercher de quoi, puis manger ça dans la cour.
Cool.
Hey, vous autres, vous faites quoi pour vos vacances, finalement?
On a un projet de camping dans la cour avec les gars. On va profiter du soleil dans la cour, puis se rapprocher de la nature de la cour, là.
C'est fun, ça.
Vous allez en passer du temps dans la cour cet été. Aussi bien la mettre à votre goût. Obtenez 40 % de rabais sur une vaste sélection de produits saisonniers et plus encore. En magasin seulement, les conditions s'appliquent.
Renault Dépôt, sortez chez vous.
Cette semaine, on profite de la circulaire Super C. Et qu'est-ce qu'on fait avec? 36 canettes de Heineken à 45,99 puis 48 canettes de Coors Light à 53$. Ben, on se la coule douce. Parce que c'est l'été, parce que c'est congé, parce que c'est l'été, parce que c'est mérité, parce que c'est l'été, parce que... Je l'ai dit l'été, hein, parce que ça fait une couple de fois que je... Hey, c'est super, Super C. Valide jusqu'au 5 août. Détails dans la circulaire Super C.
La marque Griffe Cuisine. Gage d'une équipe gagnante, Griffe est finaliste au prix Nobilis dans la catégorie cuisine de plus de 40 000 $ ainsi qu'au FIDE 2020 dans la catégorie manufacturier innovant. Chez Griffe, la pensée verte fait partie des valeurs de l'entreprise. Entre autres, ils valorisent les produits québécois et ils ont remplacé les produits à base de solvants par des produits à base d'eau. Prenez rendez-vous pour discuter avec un designer et préparez-vous pour le projet de vos rêves.
Faites votre marque avec Griffe Cuisine.
Rainfray Volkswagen Lévy vous met au courant avec la e-Golf 100% électrique 2020 à 25 995 $.
Transport et préparation assurés, incluant les rabais maximum de nos gouvernements.
Plus de 15 en inventaire. Rainfray Volkswagen.
Autoroute 20, sortie Lévis-Centreville.
Aujourd'hui, tu vas à plusieurs endroits, mais tu ne sais pas encore comment t'y rendre. Le Lyft est la solution. Tu peux voir les taxis agréés dans les environs et tes autres options de transport. Toutes les compagnies de taxis, l'autobus et le métro. Vérifie les horaires et les prix et choisis ton transport. Et reste en contact avec le chauffeur. C'est l'art de se déplacer. Grâce au pouvoir du choix, le tout en une appli. Le Lyft est ici. L'appli pour les déplacements au Canada en association avec Éducalcool.
Voici une bonne nouvelle. La plupart des salles à manger de nos restos préférés sont ouvertes. Et une autre bonne nouvelle. Beaucoup d'entre eux continuent à offrir le prêt-à-emporter et la livraison.
Voici votre commande.
Merci.
Pour des restos qui offrent le prêt-à-emporter et la livraison, textez RESTO au 25226. Encouragez nos commerçants locaux, comme...
Rôtisserie Fusée et le nouveau Tim Hortons au 1000 rue de la Faune.
Un congé de repas au bout des doigts. Textez RESTO au 25226.
Bon appétit.
Et comment...
Ça remonte le moral de se gâter un peu et ça fait du bien. Normandin a trouvé la formule parfaite pour plaire à tous. Le célèbre Pizza 4, l'offre la plus généreuse sur le marché. Pizza 4, c'est 4 généreuses pizzas de 7 pouces de Normandin avec une frite familiale et une boisson gazeuse de 2 litres. Chacun choisit sa pizza, suprême, poulet bacon, spécial Normandin. C'est pas le choix qui manque. Le Pizza 4 Normandin est offert à seulement 25,99 $. Commandez en ligne, prépayez et évitez tout contact lors de la livraison. Normandin, ça fait du bien.
Pour être à la fine pointe de l'information.
L'actualité, les dossiers chauds, à la minute près. On est à la minute près. C'est Bouchard en parle.
Avec Élisabeth Crête.
Vous êtes peut-être plusieurs à vous demander si c'est correct de manger des aliments dont la date de péremption est dans le passé.
Ah.
Ça peut être dans le passé d'une journée.
Oui, ça dépend du passé.
Oui, c'est
là.
Ça. Parce que,
ça dépend c'est quoi aussi.
Voilà. Moi, je vais vous avouer
si
que...
Si dans la même année, moi, j'ai pas de problème.
Dans la même année. Moi, je vais vous avouer que je vais... Mettons que la date de péremption, elle est de 1 à 3 jours dans le passé, je vais sentir l'aliment.
Ouais.
Puis si c'est correct, je vais le prendre pareil.
Ouais.
Je vais commencer à partir d'une semaine plus tard, là, je vais dire non, je le mange pas. Mais par contre, il y a beaucoup de gens que je connais qui vont regarder l'aliment. Puis tant qu'il n'y a pas de petites moisissures sur le dessus, ils vont le prendre.
OK, effectivement, au pif, vraiment.
Au pif, vraiment. Mais là, Jonathan, on va enfin avoir la réponse à la question jusqu'à quel point on peut prendre un aliment qui est périmé. Là.
Ouais, ça dépend c'est quoi. C'est ça, l'histoire. J'ai trouvé, c'est un article qui est sur la revue Slate, en fait, sur le site web, et on pose la question, est-ce que c'est dangereux de consommer de la nourriture sur laquelle il y a du moisi? Ce que l'on dit, c'est qu'il faut faire attention à certains aliments. Parce que ça peut développer ce que l'on appelle des mycotoxines. Et ça peut être dangereux, même quand c'est cancérigène pour certains cas. Donc, pour certaines des choses que ça peut, des substances toxiques que ça peut sécréter, on peut en être malade, mm-hmm. Vous l'aurez compris. Et là, on dit par exemple, une tranche de pain, si vous grattez